Nous sommes le 3 mai 2025. Donc, c'est le mois de Marie. Et bientôt, nous allons célébrer la fête de Notre-Dame de Fatima. Alors, quand j'ai demandé au Saint-Esprit de quoi je devais vous parler, il m'a mis dans l'oreille Fatima. Bon, alors allons-y. Voilà. Alors, on va essayer, évidemment, comme c'est un message qui est très actuel, même s'il date d'il y a un petit peu du moment, on a fêté le centenaire il n'y a pas très très longtemps, on va essayer d'écouter ce que la Sainte Vierge nous dit dans ses messages, ce qu'elle continue à nous dire encore aujourd'hui. Peut-être c'est quelque chose qui peut nous aider à mieux vivre ce mois de mai qui traditionnellement est consacré à la Vierge Marie aussi. Voilà. Donc, pour commencer, les apparitions à Fatima, je vous rappelle, en mai 1917, au Portugal, ça se passe dans un contexte très difficile, puisqu'on est en pleine guerre, une guerre qui fera en Europe plus de 15 millions de morts. Et donc en 1917 commence aussi, se passe la révolution socialiste soviétique en Russie, donc qui fera entre 8 et 20 millions de morts. Voilà. On a aussi le génocide arménien dans cette époque-là, entre 1915 et 1923, 1 500 000 morts. Voilà, donc une situation catastrophique avec un gouvernement aussi au Portugal catastrophique, très orienté franc-maçon. Voilà, donc on a des éléments plus que difficiles. Dans un premier temps, je vous rappelle un peu ce que vous êtes tous quand même très très introduits déjà, très initiés. Dans quelques mots sur les apparitions elles-mêmes, on va aller vite, mais on va s'attarder plus sur le message. Donc je vous rappelle que les voyants sont des enfants à l'époque. Donc vous avez Lucie, Lucie dos Santos, qui à l'époque avait une dizaine d'années. Voilà. Et qui va vivre assez longtemps, puisqu'elle est morte donc en 2005. Ensuite, vous avez deux autres enfants qui sont béatifiés, le bienheureux François Marteau, qui à l'époque avait 9 ans, et puis la bienheureuse Jacinthe Marteau, qui avait 7 ans. Voilà. Alors, ces apparitions vont être préparées par des apparitions d'anges. Donc, les événements ne commencent pas en 1917, mais ils commencent en 1915, puisque Lucie, accompagnée de 3 fillettes de son âge, vont voir l'ange. Voilà. Quelque chose, disent-elles, sous forme humaine. Il n'a rien dit, mais bon. Un an après, l'année d'après, on est en 1916. L'ange va se manifester, mais cette fois-ci aux 3 enfants que j'ai nommés, Lucie, Francesco et Jacinthe. Et il va avoir des messages que nous verrons tout à l'heure, 3 fois. Et il s'est nommé l'ange de la paix. Les apparitions de la Sainte Vierge à Fatima vont commencer à partir du dimanche 13 mai 1917. Et la Sainte Vierge va donner rendez-vous aux enfants une fois par mois, jusqu'au mois d'octobre, le 13 octobre 1917. Alors assez vite, il y aura des foules qui vont venir et en octobre 1917, pour le dernier signe qui sera très impressionnant, puisque on verra suite à une pluie torrentielle le soleil qui va danser dans le ciel et envoyer plein de couleurs différentes, se précipiter vers la Terre. Et on a pensé, bon, c'était peut-être une illusion, une hystérie collective, sauf que les gens autour qui n'étaient pas là ont vu le phénomène. Donc c'est pas quelque chose. Et puis on a pris des photos, etc. Donc vous connaissez tout ça. Et la Sainte Vierge va demander donc à ce qu'on construise une chapelle, Notre-Dame du Rosaire, et elle va apparaître sous plusieurs formes. D'abord, c'est la Sainte Famille qui va apparaître dans le ciel, Saint Joseph, la Sainte Vierge, l'enfant Jésus. Ensuite, c'est la vision de Notre-Dame des Douleurs. Et enfin, la vision de Notre-Dame du Mont Carmel. Voilà. Ça, c'est pour ce qui se passe en 1917. Vous voyez, on va vite, on va s'attacher au message après. Ensuite, vous avez les apparitions à Sœur Lucie, parce que les enfants vont mourir, les plus petits vont mourir très vite après. Alors, ces apparitions vont commencer en 1925. C'est là que Lucie va voir la Vierge Marie et l'enfant Jésus, et qui vont donner la dévotion réparatrice des premiers samedis. C'est bon qu'on ait l'occasion d'en parler justement, les premiers samedis. Et puis, donc, il y aura encore une apparition l'année suivante avec quelques précisions sur ces premiers samedis et en parallèle avec la nécessité de la réparation des outrages faits au cœur de Marie. On en parlera tout à l'heure. Et enfin, en 1929 et en 1930, il est demandé la consécration de la Russie et encore une fois la dévotion réparatrice des 5 premiers samedis du mois. Voilà. Alors, l'Église va reconnaître très vite ces messages et en gros dans les années 30. Voilà. Alors maintenant, le message de Fatima qu'il nous faut entendre. Première chose, premier point. À Fatima, il est question de la prière pour la conversion des pécheurs et pour la paix. Alors ça veut dire quoi les pécheurs? On est tous pécheurs. Alors, dans l'esprit de la Sainte Vierge, en tout cas à Fatima, ce que dit Sœur Lucie, la Vierge ne nous a jamais intéressés aux âmes du purgatoire, mais toujours à celles des pécheurs. Celles du purgatoire sont sauvées. Elles sont dans le vestibule du paradis, tandis que celles des pécheurs se trouvent sur les bords de l'abîme infernal. Donc on a compris. Il s'agit de prier pour ceux qui vont tout droit en enfer. Bon, on n'y croit plus beaucoup à l'enfer. On voit tout ce paradis, c'est connu. Bon, dans ce cas-là, on n'a plus rien à faire dans cette église. Ok, nous sommes bien sauvés de quelque chose. Et nous sommes sauvés de la mort éternelle. On est d'accord. Sauf que, malheureusement, la voie qui mène à la perdition est large, comme nous dit Jésus dans l'Évangile. Mais étroite est la voie qui nous conduit au salut. Ok. Donc, à Fatima, la Sainte Vierge va nous proposer des armes pour empêcher que les âmes se précipitent en enfer. Alors, urgence donc de la prière. Nous sommes en danger, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Bon, on parle beaucoup des prophéties, qu'est-ce qui va arriver, etc. Mais attendons pas que tout ça arrive, c'est déjà arrivé. C'est d'ailleurs ce que dit la Sainte Vierge à Medjugorje depuis le début, c'est-à-dire depuis 1981. La Sainte Vierge à Medjugorje répète « Nous sommes en guerre ». Est-ce que nous avons conscience que nous sommes en guerre ? C'est une guerre, oui, spirituelle. C'est une guerre spirituelle. Car il y a bien un enjeu, celle du salut éternel ou pas. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à votre salut éternel. Quand j'étais petit, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Parce qu'entre frères et sœurs, on disait « Ah, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer ». Bon, en fait, vous savez, le Seigneur se sert de tout. C'est vrai qu'on a un choix à faire. On a le choix à faire entre la loi de Dieu, qui est chemin de vie, et la loi des ténèbres, qui apparemment est alléchante. Faites-vous plaisir. Libérez-vous. Bon, on connaît les pièges du tentateur. Il l'a déjà fait, hein. On peut lire ce qui se passe dans la Genèse au tout début. Alors, la réalité du ciel et du purgatoire, l'apparition du 13 mai 1917, il y a Lucie qui demande à la Sainte Vierge, est-ce que j'irai au ciel ? Marc, moi j'aurais peut-être demandé la même chose aussi. Oui, tu iras. Et Jacinthe ? Oui, aussi. Et François ? Vous savez ce qu'elle répond ? Aussi, mais il devra réciter beaucoup de chapelets. Parce que l'habitude du petit François, c'était de faire un peu vite. Je vous salue Marie, voilà. Amen. Et après, il allait jouer de la flûte, parce qu'il était un peu poète. C'est pas descendu dans l'oreille d'un sourd. Le petit François, après, il a mis la gomme. Voilà. Est-ce que Maria est déjà au ciel ? C'était une petite amie qui avait 16 ans, qui est décédée. Oui. Et Amélia, elle est décédée à 19 ans. Réponse de la Sainte Vierge. Elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Voilà. Elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Donc, vous voyez, il y a une réalité du ciel et aussi de l'enfer, puisqu'on sait que dans une apparition qui aura lieu un peu plus tard, c'est-à-dire au mois de juillet, les enfants vont voir l'enfer. Ils vont être complètement traumatisés par cette vision. Donc, un océan de feu où étaient plongés les démons et les âmes des damnés. Alors, les âmes des damnés apparaissaient comme des braises transparentes, noires ou presque, dans des formes humaines. Voilà. Et avec beaucoup de cris et des gémissements de douleur, de désespoir, effrayants. Les démons se distinguaient des âmes des damnés par des formes horribles, répugnantes, d'animaux, effrayants et inconnus, mais transparents comme de noir charbon embrasé. Bon, vous voyez, en fait, fréquenter Dieu, c'est pas du style zen. Ça va m'apporter le bien-être, la paix. Je vais faire d'autres exercices. Vous voyez, c'est pas ça. C'est-à-dire, si nous fréquentons le Seigneur, c'est qu'il y a un choix. Je mets devant toi la vie ou la mort. Deutéronome 30, 15. Alors choisis la vie. Et ça, c'est notre responsabilité, c'est pas celle de Dieu. Voilà. Et Fatima va donc nous le rappeler. Donc, la prière et la conversion sont conditions de notre salut. Vous voyez ? La prière pour les malades, par exemple. 13 juin, Lucie demande la guérison d'un malade. Et la Sainte Vierge va répondre, s'il se convertit, il sera guéri durant l'année. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est pas juste, tiens, je vais lui imposer les mains, et puis tu vas voir, ça va marcher, etc. Non, non, c'est la conversion, donc la guérison de l'âme. Ok ? Donc on n'est pas là juste, je fais une parenthèse, pour demander des délivrances. On est là pour demander le salut, c'est différent. Le salut de nos âmes. Je ne sais pas si vous avez envie d'aller en enfer. Moi non. Bon, en tout cas, voilà. Donc, lien entre maladie physique, et je rajoute maladie spirituelle, puis la maladie de l'âme. Eh oui. Et la conversion va être posée comme un élément déterminant de guérison. Une petite fille sourde et muette, on est le 13 septembre, et la Sainte Vierge va répondre, d'ici un an, elle se trouvera mieux. Et du coup, d'autres demandent, parce qu'il y a d'autres malades évidemment, je guérirai les uns, mais les autres non. Parce que notre Seigneur ne se fie pas à eux. N'a pas confiance en eux. Il n'y a pas de lien. Donc, ils ne seront pas guéris. Il ne faut pas l'entendre comme une punition, évidemment. Parce que si nous ouvrons notre cœur à Dieu, c'est une relation d'amour. Il ne nous force jamais. Alors, Dieu attend mystérieusement que nos cœurs s'ouvrent. D'accord ? S'ouvre à son amour. Jésus n'est pas un espèce de thaumaturge qui va nous démontrer qu'il est tout puissant. Rappelons-nous, si t'es Dieu, eh ben t'as qu'à descendre de la croix. Ok. Non, on ne fait pas ça avec Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Par contre, il y a effectivement une attitude intérieure qui est celle de l'amour. Seigneur, j'ai confiance en toi. Cette belle prière qui a été donnée à Jésus, à Sainte Faustine. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et si nous avons confiance, alors nous pourrons guérir, oui. Et nous pourrons prier pour la guérison. Il faut avoir quand même un peu de foi pour prier pour la guérison. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà prié pour des places de parking. Bon, il faut avoir un peu de foi pour prier pour des places de parking. Moi, ça m'est déjà arrivé, pas mal de fois. Bon. Mais par contre, prier pour la guérison. Ah, il faut un peu plus de foi quand même. D'accord ? Là, en Vendée, on a un ami qui a fait un arrêt cardiaque et il a fait un état de mort. Bon, et il est resté dans le coma au moins 3 semaines. On est une centaine à prier pour lui. Bah, figurez-vous, il est sorti de son coma, il n'y a aucune séquelle neurologique. Waouh, merci Seigneur. Bon, voilà. Alors, nous appuyons sur la foi et non pas sur allez, Jésus, encore un miracle. C'est ce que voulait Hérode. Et Jésus devant Hérode, il n'a pas dit un mot. Voilà. Alors, donc, c'est l'appel à la conversion. Et c'est pourquoi la Sainte Vierge va demander à ce qu'on se corrige aussi de nos péchés. Bien sûr, la correction de nos péchés, c'est notre bon vouloir, d'accord ? Mais c'est Dieu qui va le faire. Mais nous, on a un petit travail quand même, c'est de bien vouloir se convertir. Parce que, vous savez, on peut aussi marcher avec nos lois, et puis la loi de Dieu. Du style, eh bien, je vais à l'église, etc., mais je suis adultère. D'accord ? Puis je me confesse, hein ? Bon, ça existe. Stop. Donc là, la conversion, c'est qu'on laisse l'Esprit Saint nous montrer là où ça coince. Si je suis addict à je sais pas quoi, que ce soit l'alcool, le sexe ou autre chose, j'ai besoin de prendre la décision d'arrêter. D'accord? Ça me revient. Et peut-être faire des démarches du style médical, si c'est l'alcool. Avec même l'addiction à la sexualité, il y a des services comme ça, en tout cas, dans certains hôpitaux, pour aider. Bon, bref, on peut faire, nous, un travail. D'accord? Parce que tout attendre que ça nous tombe tout cuit dans le bec, non, ça ne marche pas aussi. Pourquoi? Parce que c'est une question d'amour, et l'amour suppose la liberté. Est-ce que vous me comprenez? Donc, notre décision. Pour ça que la pédagogie de Dieu, c'est pas d'abord donner le Saint-Esprit et après la loi, il donne d'abord la loi, et puis un certain nombre de siècles après, c'est la Pentecôte. Mais d'abord, il donne la loi pour que nous décidions de vivre selon cette loi. Jusqu'au jour où on va dire, Seigneur, j'y arrive pas. Et on se met à genoux, on se dit, Seigneur, voilà, viens le faire en moi. Mais voilà. Urgence donc de la prière et de la conversion, ça c'est le message de Fatima, mais pas seulement de Fatima, évidemment. Vous allez à Medjugorje, vous allez à Lourdes. Bon, la Sainte Vierge dit toujours cela. Ce qui est peut-être spécifique à ces apparitions à Fatima, c'est cette prière pour les pécheurs, dans le sens qu'on a dit tout à l'heure. Ceux qui se vouent à l'enfer. On a peur pour eux, quoi. S'ils continuent comme ça, waouh, vous voyez? Ceux qui ont pactisé dans la franc-maçonnerie. Et que vont devenir les pécheurs? Ceux qui sont dans le satanisme, que vont devenir les pécheurs? Vous savez, cette exclamation de Saint Dominique, il passait ses nuits en prière, il pouvait pas aller se coucher, quoi. Et que vont devenir les pécheurs? On ne peut pas juste être tranquille et dire Seigneur, moi, et puis tu m'as béni, et puis moi, et encore moi. Non, on est dans un danger. Un danger de perdition éternelle. Alors, ça, c'est le message de Fatima. Alors, ça commence avec l'ange de la paix. Je retourne en arrière. On est en été 1916. Cette injonction de l'ange qui dit mais priez beaucoup, priez, priez beaucoup. Les 5 heures de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez sans cesse au Très-Haut des prières et des sacrifices. On reviendra sur la notion de sacrifice tout à l'heure. On n'aime pas beaucoup ce mot-là. La prière, oui, Seigneur, le sacrifice. Bon, alors ça veut dire quoi? Et c'est la question que Lucie va demander à l'ange. Comment on doit faire pour se sacrifier? Alors écoutez bien, voilà la réponse de l'ange. Je ne sais pas si vous avez vraiment envie d'écouter ça. Allez. De tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. De cette manière, vous attirerez la paix sur votre patrie. Intéressant. Vous attirerez la paix sur votre patrie. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. Bon, je traduis un peu parce qu'on n'aime pas trop entendre que Dieu envoie des souffrances. En tout cas, il ne les empêche pas forcément. Ah oui. Soit Dieu empêche la souffrance, c'est-à-dire un ange qui enlève les pierres sur le chemin. Soit il ne l'empêche pas, et dans ce cas-là, c'est une autre forme d'action divine. On n'est plus dans les signes messianiques, où Dieu enlève tout de suite la souffrance. On est dans le mystère rédempteur de la croix et de la résurrection. C'est-à-dire que la souffrance va être visitée et elle devient rédemptrice pour nous, pour les autres. Waouh, c'est quelque chose de grand. Si on a compris ça, bienheureux sommes-nous. Alors, donc, deux choses qui sont finalement proposées, offrir à Dieu nos actions et finalement notre être tout entier en compensation des péchés qui l'offensent. Deuxièmement, écoutez bien, je crois que c'est important, accepter les épreuves de la vie. Parfois c'est difficile. Consentir. Ne pas s'enfermer dans « Ah, je souffre. Je suis une pauvre victime. C'est trop injuste. » Ça, c'est une auto-malédiction. Et vous savez ce que ça avait donné lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, rapporté par le livre des Nombres. Quand ils ont commencé à avoir cette attitude-là, « Je souffre, je suis une pauvre victime. » Dieu a envoyé, en tout cas il a permis, il n'a pas empêché, les serpents brûlants. L'auto-victimisation, la victimisation est une auto-malédiction, qu'on entend bien. Qu'on entend bien. On a le droit de dire « Oui Seigneur, je souffre, mais disons la solution tout de suite après. Mais Seigneur, tu es le Tout-Puissant et en toi, je remets ma cause et je ne serai pas déçu. » Parce que, nous dit Jésus, Marc 11, « Quoi que vous demandiez à Dieu, croyez que vous l'avez obtenu. » Alors on ne va pas rester dans la plainte et dans la plainte et moins, moins, moins. Voilà. Ça, c'est l'auto-malédiction. Alors, revenons un peu à la première arme, qui est la prière. Alors, c'est vrai que Fatima est une école de prière, comme à chaque fois que la Sainte Vierge apparaît. Vous avez remarqué, elle nous apprend à prier. À Lourdes, elle nous apprend même à faire notre signe de croix, en prenant notre temps. À Lourdes. Et ici, l'ange va préparer les enfants à cette démarche que demande la Sainte Vierge. Et c'est très intéressant parce que la première chose que l'ange va faire, c'est de se prosterner devant Dieu, face contre terre. Il s'agenouille à terre, il courbe le front jusqu'au sol. Si nous voulons prier, entrons dans ce lieu saint qui est notre cœur et prosternons-nous devant celui qui est notre Dieu. Vous allez voir, il y en a un qui n'est pas très content de ça quand nous le faisons. Nous prosterner, et c'est très important de mettre le front contre terre. Bon, si vous n'y arrivez plus parce que il y a de l'arthrose ou autre, faites-le intérieurement. Pourquoi front contre terre? C'est simple, parce que c'est Isaïe 55, il me semble, qui dit que, eh bien, mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Et comme mes pensées ne sont pas celles de Dieu, quand je mets ma tête sur le sol, ça veut dire, Seigneur, c'est toi qui as la vraie pensée, pas moi. Donc ma pensée, elle est en dessous. D'accord? Et là, on rentre dans la prière. Parce que si on rentre dans la prière avec nos schémas, etc., avec nos méthodes, ben, ça risque de se terminer en autre boudin. Ou alors, je sens rien, il ne se passe rien. Pourtant, je prie, je récite mes prières. Oui, sauf que je ne prie pas. Parce que la vraie prière, ça commence par l'adoration. Cette attitude où on reconnaît Dieu comme notre roi, notre maître. On n'est pas juste avec un espèce de compagnon. Et quand est-ce que tu fais quelque chose pour moi? Bon, etc. Bon, bref, on peut tout avec Dieu, hein, mais Dieu est Dieu. Alors ça, c'est très intéressant. Ça, c'est l'école de Fatima. Et vous vous rappelez qu'à la troisième apparition, il va faire la même chose. Il va apparaître avec un calice et l'Eucharistie. Jean 4, Jésus parle à la Samaritaine. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors vous voyez, on peut être amené à réviser un peu notre mode de prière. Si mon mode de prière c'est, bon, je récite ça le matin, ça à midi et ça le soir, point final, bon, il manque juste l'adoration, c'est un peu embêtant. Mais il manque aussi la prière des cœurs, car la prière n'est pas juste une récitation. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras. Deutéronome 6. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Voilà le premier commandement que nous rappelle Jésus, celui de Deutéronome. Voilà, la prière aussi, deuxième élément que nous apprenons à Fatima. La prière nous décentre de nous-mêmes. Elle nous centre sur Dieu, certes, mais elle nous décentre de nous-mêmes. Parce que si on prie en disant « Seigneur, moi, moi, moi », évidemment, on n'ira pas très loin. Dans la prière, nous nous centrons sur le Christ. Nous nous décentrons de nous-mêmes. Et en nous centrant sur le Christ, nous nous ouvrons. Nous nous ouvrons au monde. Et nous sommes en solidarité avec tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui n'aiment pas Dieu. Vous vous rappelez de cette prière de l'ange ? Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime, je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Voilà, la prière va nous ouvrir. Et enfin, la prière va nous plonger dans les cœurs unis de Jésus et de Marie. Et il y a, on y reviendra tout à l'heure, mais Jésus a, depuis assez longtemps, révélé le mystère de son sacré cœur. Depuis le Moyen-Âge, au moins, hein, avec Sainte Gertrude, et plus récemment avec Sainte Marguerite Marie à la Coque, cœur de Jésus qui demande réparation, oui, on est pile poil un siècle avant la Révolution française. Voilà, où Jésus demandait réparation, cause des outrages à son cœur, et il demandait à ce que Louis XIV mette, vous savez, son cœur sur le drapeau français, ce qui n'a jamais été fait. Claire Ferchaud, en 1914, hein, a eu le même message, d'accord ? Donc, ça n'a jamais été fait. Et on connaît la suite, même dans la vie de Louis XIV, c'est quand même assez catastrophique. Et donc, un siècle exactement après, intéressant, c'est le début de la Révolution française, avec le génocide vendéen, la terreur, donc l'ordre d'exterminer tous les Vendéens. Bon, c'est pas encore reconnu, prions pour que ça soit reconnu. Alors, on est encore dans une omerta en France par rapport à ça. Il y a une réalité spirituelle, et donc vous voyez, plus tard, eh bien, la Sainte Vierge va demander à ce qu'il y ait réparation à son cœur. Et évidemment, eh bien, on a le mystère des cœurs unis de Marie et de Jésus. Jésus nous donne sa mère encore plus, parce que c'est vraiment à travers elle Nous avons un moyen, une autoroute, d'accord, pour le ciel. Alors, évidemment, est demandée la prière quotidienne du chapelet, d'accord. Voilà. Ok. Les sacrifices. Revenons un peu sur les sacrifices. Donc, l'ange de la paix, il a donné ce message. On a dit comment il faut le comprendre. Donc, à la fois offrir à Dieu, mais on peut offrir aussi nos joies. Hein. Nous sommes nous-mêmes faits pour être un sacrifice. Sacrum facere en latin, hein, n'ayons pas peur. Sacrum facere, faire du sacré. Nous sommes désormais un sacrifice vivant pour Dieu. Ben oui, puisque nous sommes arrachés du profane, nous avons revêtu le Christ. Donc, nous devenons un sacrifice pour la gloire de Dieu. C'est le premier sens du terme sacrifice. Romains 12, hein, je vous invite à faire de vos corps, de vos êtres, eh bien, une offrande en sacrifice. Ben, j'espère que ça vous fait envie. Parce que c'est vrai que le mot sacrifice, on le voit tout de suite, le côté sanglant de la chose. On va dire non, Marthe Robin, c'est bon, rester 50 ans dans un lit, non, merci, etc. Si vous voulez, c'est vrai qu'il y a des âmes dites victimes, ça existe, ok. Des âmes dites victimes, où Jésus va leur demander si elles acceptent. De s'unir à sa passion pour, ben voilà, pour le salut du monde. Mais pour des gens, on va dire, ordinaires, comme vous et moi, pardon, enfin, comme moi, eh bien, en fait, le premier sacrifice, c'est de dire « Seigneur, je t'appartiens à toi et tout entier. Mon intelligence, ma volonté, tout. Si j'ai une entreprise, cette entreprise, je te la consacre. Ma famille, je te la consacre. » C'est ça ce que ça veut dire d'abord, le sacrifice. Faire de notre vie un sacrifice, oui, c'est-à-dire un don sacrum facere. D'accord ? Après, il y a aussi le terme de holocauste. On n'aime pas trop hein, holocauste. Parce que holocauste en grec, holos, chaos, voilà, ça veut dire tout brûlé. Et vous savez que Jésus, il est sacrifice sur la croix. Et c'est quoi le feu qui le brûle ? Hébreux 9, le feu qui brûle Jésus, ça n'est plus les feux du temple où on cramait les victimes pour que la fumée monte symboliquement vers le ciel, la victime est partie vers le ciel. Non. Jésus sur la croix, il brûle du feu du Saint-Esprit. Comme le buisson ardent du temps de Moïse brûlait d'un feu qu'il ne consumait pas. Et la Sainte Vierge, qui est cette arche d'alliance accomplie, comprenez bien que le jour de l'Annonciation, elle brûlait du feu du Saint-Esprit. Et au pied de la croix, quand elle devient mère des hommes, elle brûle du Saint-Esprit. Alors, nous sommes appelés aussi à devenir des sacrifices vivants, Romains 12, de brûler du feu du Saint-Esprit. Alors, c'est vrai que c'est une aventure, parce que si c'est l'amour qui nous guide, le moi, il va en prendre un coup. C'est vrai. Nous risquons d'être parfois et de temps en temps, ou souvent, contredit. Tant mieux. Parce que notre vrai moi, c'est quoi ? Est-ce que c'est notre vieil homme ? Non. Notre vrai moi, il est caché avec le Christ en Dieu, nous dit saint Paul. Colossiens 3:3. Considérez que vous êtes mort. C'est comme si on était mort. Dieu est passé par là. Et on va vous dire, mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'es amoureux ? Non, j'ai rencontré Jésus. Donc je suis amoureux, effectivement. T'as bien vu. Bon, je pense que ça vous est tous arrivé. portez ce témoignage autour de vous. Bon, vous brûlez désormais le feu du Saint-Esprit et ce que vous offrez à Dieu, c'est pas d'abord des actions, c'est vous-même. C'est nous-mêmes. Et dès notre prière du matin, Seigneur, je vais être un sacrifice pour toi. Mais attention, holocauste, tout brûler le Saint-Esprit. Ça marche? Ça vous plaît? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Parce que, bon, voilà. Priez beaucoup pour les pécheurs, afin que personne n'aille plus dans cette prison de feu où l'on souffre tant. C'est quand même énorme. La Sainte Vierge avait dit en juillet 1917 qu'il y a beaucoup d'âmes, ou c'est en août, enfin bref. Oui, c'est en août qu'elle va dire ça, le 19 août. Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. Attendez, je répète. Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. C'est dit. Donc, vous voyez, on a du boulot. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Voilà. Offrez à Dieu un sacrifice. Il y a nos pénitences donc passives, vous voyez, je me répète, qui consistent à accueillir les épreuves de la vie sans râler forcément. Bon. Voilà. Patiemment, avec l'aide de Dieu, la patience est un fruit du Saint-Esprit, hein, je le rappelle. Mais aussi les pénitences actives. Bon, la Sainte Vierge à Medjugorje, elle nous invite à reprendre la tradition de l'Église primitive, c'est-à-dire le jeûne, le mercredi et le vendredi. Pourquoi le mercredi? Parce que vous avez remarqué que pendant la Semaine Sainte, le mercredi, c'est le jour où on fait mémoire de la trahison de Judas. D'où l'intérêt du jeûne. Si vous n'arrivez pas à jeûner, c'est pas grave, vous pouvez aussi faire abstinence, monodiète par exemple, faites un bon riz, enfin, etc. Vous voyez, le but c'est pas forcément de faire une ascèse extraordinaire, chacun fait comme il peut, mais ne contournons pas quand même cette réalité du sacrifice. Et on a des jeûnes à faire, je pense. Par exemple, le jeûne des écrans. Bon, je vous donne une idée. Chez moi, j'ai une grande télé comme ça. Je l'ai transformée en soutien d'icône. Je l'ai mise dans ma cheminée, puis j'ai mis une grande icône de la Sainte Vierge devant. Là, chacun. Donc, pas de télé. Bon, oui, il faut se tenir au courant, mais vous voyez, canaliser, quoi. On est envahi. On est complètement envahi par les écrans. Et du coup, on ne se rend pas compte qu'on est complètement manipulé, là. Hein. Bon, alors, du coup, ça peut être une bonne idée. Pas d'écran. Des journées sans écran. Yes. Bon, enfin, voilà, je vous donne peut-être d'autres idées. Pas de sucre, pas de sel. Enfin, voilà, on ne va pas dire, non, moi, je ne peux pas jeûner, je suis trop fatigué. Voilà, il y a toujours des trucs qu'on peut trouver. Pas de mots négatifs. Pas de paroles de jugement. Bon, vous voyez, je vous donne des idées, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Donc, à Fatima, la Sainte Vierge aussi, elle dit, attention, pas de dolorisme, parce que, en fait, les enfants, ils s'étaient mis une corde, même la nuit, et la Sainte Vierge leur a dit, non. Enfin, Dieu est satisfait de vos sacrifices, mais il ne veut pas que vous dormiez avec la corde. Il y en avait un peu trop, quoi. Il y en avait un peu trop. Bon. Je ne sais pas si aux ventes de chapelet, ils vendent aussi des disciplines, je ne sais pas. Non, je plaisante. Voilà. Donc c'est rentré dans un esprit de aussi de discipline par rapport au vieil homme en nous, on est d'accord, hein, mais aussi dans cette solidarité, si je rentre aussi, si j'intègre cette arme du sacrifice, alors waouh, là il y a quelque chose de puissant. Et il y a des âmes qui vont sans doute pas aller en enfer. Vous vous rappelez, à Medjugorje, le petit Jacob et la Sainte Vierge donc avait dit que c'était quand même bien de prier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous salue Marie. Un jour, il était en retard pour la partie de foot. Il était encore tout petit. Et puis, il s'est rappelé ce que la Sainte Vierge disait. Alors, il s'est arrêté et puis il a dit son « Je vous salue Marie ». Après, il a couru pour aller rejoindre ses copains. Et à l'apparition d'après, la Sainte Vierge l'a amené en Chine. Et dans la chambre d'un mourant. Et vous vous rappelez de cette histoire? Et la Sainte Vierge lui a dit, tu as vu, en fait, ta prière, à ce moment-là, elle a sauvé cet homme qui était en train de mourir. Il a été arraché au pouvoir de Satan. Trop bien. Voyez? Donc, allons-y, allons-y. Voilà. Alors, cinq grandes démarches spirituelles qui nous sont proposées à Fatima. Et la première démarche, on vient d'en parler, la prière et le sacrifice. Prière et sacrifice pour la conversion des pécheurs. Si vous connaissez la petite Thérèse de Lisieux, elle dira la même chose. Elle aimait beaucoup la Sainte Jeanne d'Arc, qui disait « Mes armes, mes armes !» Et ces armes, c'est la prière et le sacrifice. D'accord? Alors, ensuite, la deuxième arme, eh bien, c'est la dévotion eucharistique en réparation des outrages. Alors, je vous rappelle, c'est la troisième apparition de l'ange à Fatima. On est en 1916, en automne. Et l'ange va apparaître. Et il y aura dans sa main gauche un calice avec une hostie suspendue. Et de l'hostie tombent des gouttes de sang dans le calice. Et le calice va rester suspendu dans l'air. Et l'ange se prosterne. Et on rentre dans la prière, on se prosterne. Et il répète trois fois cette prière. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Et ensuite, il va donner la communion à Lucie et il donne le sang du calice à Hyacinthe et François. Prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par les hommes ingrats. Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. On pense donc à la demande aussi qu'a faite Jésus à travers Sainte Marguerite Marie Alacoque des neuf premiers vendredis consécutifs. Les neuf premiers vendredis du mois, neuf mois consécutifs, une communion en réparation aux outrages au Sacré-Cœur. Donc là, on est au 17e. Et vous voyez, un peu plus tard, eh bien, là, c'est cette demande du ciel, de la dévotion au cœur immaculé, mais qui est uni évidemment au cœur de son fils. On pense à Saint Jean Eudes, hein, donc dans l'école française, voilà, c'est le cœur de Jésus et Marie. Ils ne forment qu'un seul cœur. Ils ne sont pas fusionnels. Mais c'est l'union de l'amour. Voilà. Alors, la Sainte Vierge va demander à ce qu'on se consacre à son cœur immaculé. Mais cette consécration, nous le savons, ce n'est pas quelque chose qui va nous détourner du Christ, au contraire. Saint Louis et Marie Grignon de Montfort a parlé de cette consécration, bien sûr, en invitant à finalement à nous consacrer à Jésus, mais par Marie. Puisque nous accueillons Marie comme notre mère, imaginez que vous êtes un tout petit bébé et que vous refusez la moitié des trucs que votre mère a prévus pour vous. Ben non, là vous n'irez pas très loin. Si Marie nous est donnée, c'est pour qu'elle ait tout pouvoir sur nous. D'accord ? Et si donc nous voulons accueillir le don de Jésus sur la croix, voici ta mère, nous allons lui dire, Marie, prends tous tes pouvoirs sur moi. Et si nous nous laissons nourrir, envelopper, soigner, diriger, enseigner par Marie, eh bien alors nous sommes unis à Jésus. J'espère que nous en sommes convaincus. Je vous cite juste la vraie dévotion, numéro 120. Or, Marie étant la plus conforme à Jésus-Christ de toutes les créatures, il s'ensuit que plus une âme est consacrée à Marie, plus elle le sera à Jésus-Christ. Numéro 125. Il s'ensuit qu'on se consacre tout ensemble à la très sainte Vierge et à Jésus-Christ. On ne peut pas séparer la mère et le fils. Comme on ne peut pas séparer non plus le fils de tous les saints, de tous les anges. Quand Dieu vient, il vient avec la famille, quoi. Attention, il n'y a pas de fusion en Dieu. C'est quand je rencontre Jésus, c'est vraiment l'intimité du cœur de Jésus. Donc n'ayons pas peur d'être gênés dans notre relation avec Jésus. Non. Mais ça, c'est le propre de l'amour. À la très sainte Vierge, comme au moyen parfait que Jésus-Christ a choisi pour s'unir à nous et nous unir à lui. Donc, on se consacre à la très sainte Vierge et à notre Seigneur comme notre fin dernière, auquel nous devons tout ce que nous sommes, comme à notre Rédempteur et notre Dieu. Voilà. Donc, l'importance de la consécration au cœur immaculé de la Vierge Marie. Pourquoi ? Parce que vous pensez que vous avez la foi, vous, enfin, suffisamment ? Bon, moi, je crois que non. Donc, enfin, pour moi, en tout cas. Mais la Sainte Vierge vous est donnée, justement, pour pallier à notre manque de foi, d'espérance et de charité. Ce que fait une mère, et elle nous éduque. Elle fait en sorte que nous soyons tournés vers le Christ. D'accord ? Il y a cette union des cœurs entre Jésus et Marie. Et il n'y en a aucun qui fait l'ombre à l'autre. Non. Au contraire, on va rentrer dans cette communion de cœurs. Est-ce qu'on a besoin de rentrer dans cette circulation ? L'amour circule. Vous voyez ? N'imaginons pas l'amour comme juste mon Jésus et moi, quoi. Entre quatre yeux, mon Jésus et moi. Oui, il y a ça, mais sauf que cet amour nous propulse bien au-delà de nous-mêmes. On a dit, va nous ouvrir aux dimensions du monde, va nous ouvrir à cette dimension de l'union des deux cœurs et de la communion des saints. Voilà, les saints sont très proches. On aurait tous des histoires passionnantes à raconter sur la communion des saints. Alors, tout le monde sait effectivement aussi que la Sainte Vierge a demandé la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Ça s'est passé le 13 juin 1929. Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire, en union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, promettant de la sauver par ce moyen. Elles sont si nombreuses les âmes que la justice de Dieu condamne pour des péchés commis contre moi, que je viens demander réparation. Sacrifie-toi à cette intention et prie. Bon, voilà. Alors, on pense évidemment à cette consécration qu'avait demandé Jésus à Louis XIV, qui n'a jamais été faite. Bon, maintenant, cette consécration à la Sainte Vierge, de la Russie à la Sainte Vierge, elle a été faite par plusieurs papes. On va parler de Jean-Paul II, devant 250 000 personnes, le 25 mars 1984. Bon, il va refaire cette consécration en fait, du monde à la mère des hommes et des peuples. C'est vrai qu'il n'a pas mentionné explicitement la Russie. Ok, ok. Bon, voilà. Enfin, le 7 juillet 1952, vous avez le pape Pie XII qui a quand même consacré la Russie, mais c'est vrai que là aussi, il n'y avait pas toutes les conditions. Enfin bref, on peut... Voilà, c'est une question qui reste ouverte, on m'a dit. Voilà, on ne va pas rentrer dans la polémique. Mais enfin, dernière chose, c'est la dévotion des 5 premiers samedis du mois. Et je vous avoue que l'histoire de nos premiers samedis du mois a commencé avec le centenaire de Fatima. Parce que un jour, il m'a été demandé de développer ce que je suis en train de vous raconter. Et je me suis dit, tiens, en fait, si nous prions pour la délivrance, ça a du sens de le faire dans le calme de ces premiers samedis du mois. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de vous confesser. Bon, cool, quoi. Hein. Ça peut se faire dans les jours qui viennent. Hein. Pas de souci. N'allez pas accabler vos pauvres prêtres. Mais soyez pas inquiets par rapport à ça. D'accord ? Donc, effectivement, il est demandé, il est proposé, 5 samedis de suite en réparation. Pourquoi 5 ? Parce que la Sainte Vierge parle de 5 types de blasphèmes. Les blasphèmes contre l'Immaculée Conception. 2. Les blasphèmes contre sa virginité. 3. Les blasphèmes contre sa maternité divine, en refusant en même temps de la reconnaître comme mère des hommes. 4. Les blasphèmes de ceux qui cherchent publiquement à mettre dans le cœur des enfants l'indifférence ou le mépris ou même la haine à l'égard de notre mère immaculée. 5. Les offenses qui l'outragent directement dans les saintes images. Alors, pendant 5 mois consécutifs, il est demandé de se confesser, de recevoir la Sainte Communion, de réciter, de prier le chapelet, et de prendre 15 minutes pour, pendant 15 minutes, méditer sur les 15 mystères. Peut-être prendre maintenant 20 minutes, ok ? Maintenant, il y avait un mystère. Voilà, un temps donc des apparitions, c'était 15 minutes, pour les 15 mystères du rosaire en esprit de réparation. Voilà, ça c'est la dévotion des 5 premiers samedis du mois. Voilà, donc retenons ces différents points que la Sainte Vierge nous redit à Fatima. Donc, premier point, prier, se convertir, prier et offrir des sacrifices pour obtenir la paix, pour empêcher les âmes de se précipiter en enfer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est de nous ouvrir à l'Eucharistie. L'Eucharistie aussi en réparation aux offenses au Sacré-Cœur de Jésus, tous les outrages faits au Christ dans ce sacrement de l'Eucharistie. Ensuite, c'est la consécration au cœur immaculé de Marie, la nôtre. Ensuite, quatrièmement, c'est la consécration de la Russie. Et enfin, cinquièmement, c'est cette dévotion des cinq premiers samedis du mois. Voilà, alors je nous propose de passer aux travaux pratiques. Bon, tous ceux qui ont envie de se consacrer au cœur immaculé de la Vierge Marie, bon, je vous invite à vous lever. Et puis, nous allons prier une consécration au cœur immaculé de la Vierge Marie. Je vais vous inviter à la répéter, si vous vous sentez prêt, évidemment. Hein, on ne verra pas, hein, votre voisin ne va pas voir que vous ne dites rien. Bon, allez, en toute liberté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Je me consacre à votre cœur immaculé. Pour être pleinement offert et consacré au Seigneur. Veuillez, s'il vous plaît, me prendre sous votre protection maternelle. Défendez-moi contre les dangers. Aidez-moi à vaincre les tentations. À fuir les péchés, et veillez, je vous en conjure, sur la pureté de mon corps et de mon âme. Que votre cœur immaculé soit mon refuge. Et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Donnez-moi la grâce de prier et de me sacrifier par amour pour Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre votre cœur immaculé. En me confiant à vous et en union avec le cœur de votre divin Fils, je veux vivre pour la très sainte Trinité en qui je crois, que j'adore, que j'espère et que j'aime. Ainsi soit-il. On va prier l'Angélus. Regina Celi, le Tave, Alléluia, Quae meruisti portare, Alléluia, Resurrexit secundis, Alléluia, Ora pro nobis Deum, Alléluia. Gaudet letare Virgo Maria, Alléluia, quia surrexit Dominus vere, Alléluia. Ô Dieu, toi qui as réjoui le monde par la résurrection du Christ ton Fils, Accorde-nous à la prière de la Vierge Marie de parvenir aux joies du royaume éternel par Jésus le Christ notre Seigneur.
Amen.
Bénissons le Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.